Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie, à la découverte de vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. On lui doit les archives de la planète et aujourd'hui son musée ouvre au public pour redécouvrir celui qui a cherché à cultiver les regards sur ce qui disparaissait et ce qui apparaissait justement sur cette planète pour aborder un monde nouveau qu'il espérait bien meilleur. Martine Abbat et Diffie Mariani nous racontent aujourd'hui la drôle d'histoire d'Albert Kahn et de son tour du monde.
Mon nom est Albert Kahn.
Alors Albert Kahn était petit, rondelet, roux, avec soi-disant un regard de braise.
Albert Kahn, c'était un homme qui avait un fort accent juif alsacien et qui avait parfois du mal à se faire comprendre. Et on sait qu'il était parfois un peu effacé.
Je suis né en 1860.
C'était pas quelqu'un du tout qui était apprêté.
Je suis né en Alsace, à Marmoutier.
Il faisait fi vraiment des vêtements et des apparences.
Je pense que c'est quelqu'un qui était assez solitaire.
C'était un homme de photo qui ne se laissait jamais photographier ou filmer.
On ne lui connaît pas de descendance, il ne s'est pas marié. On a dit de lui qu'il a connu tous les plus grands de ce monde, etc. Mais c'est quelqu'un qui ne fait que passer.
Quelqu'un d'un peu visionnaire, qui sait où il va, mais au quotidien un petit peu versatile.
Il était visionnaire, mais dans son temps.
Le terme pour le qualifier le plus récurrent, c'est chimérique.
C'était un personnage.
Ah mais il est hallucinant, Albert Kahn.
Qu'est-ce qui vous fascine tant chez lui?
J'aurais tendance à dire sa naïveté. C'est d'avoir cru pouvoir changer le monde et l'améliorer et le rendre meilleur. C'est assez fascinant que quelqu'un consacre tout l'argent qu'il a consacré à cette utopie. Et c'est beau en même temps.
Albert Kahn, rêver d'un monde nouveau. Un documentaire de Martine Abbat et Diffie Mariani.
Ça fait longtemps pour le jardin, ça.
Non ?
Et là, nous rentrons dans la forêt bleue. Forêt bleue et ensuite forêt voisine.
Michel Favis.
Nous entrons puisque nous sommes sous les frondaisons des arbres. Hein, donc c'est pour ça qu'on est presque une porte en fait.
Et c'est très sombre.
Oui. Ça évoque vraiment les forêts.
Ces forêts d'enfance.
D'où il vient, on le sait très bien, vu qu'il vient d'Alsace, de Marmoutier.
Adrien Genouté.
Il vient d'une famille d'éleveurs de bestiaux juives. Son nom en fait est Abraham. Son premier prénom c'est Abraham. Et. De son enfance en tant que tel, on sait peu de choses. On sait qu'il est d'une fratrie de quatre. On sait que sa mère décède assez rapidement, il a une dizaine d'années. Et c'est au même moment où, évidemment, commence la guerre franco-prussienne.
Donc il a 10 ans au moment de la guerre de 70.
Frédéric Le Bris.
Où la France va perdre l'Alsace et la Lorraine, donc la région où habite Albert Kahn. Donc à 10 ans, il va se retrouver doublement orphelin de sa mère et de sa patrie.
C'est une famille plutôt tradition rurale.
Yael Araza.
Et surtout des gens qui ont un lien avec les bêtes.
Hein. Avec les vaches.
Les vaches en particulier, qu'Albert Kahn adore. Donc des familles de maquignons, mais aussi en fait de bouchers.
De bouchers.
Voilà. En tout cas, son père est maquignon. Et Albert Kahn, visiblement, le suit aussi sur les marchés aux bestiaux. Donc la légende veut que c'est là qu'il ait appris à négocier les choses de façon âpre et douce à la fois, en fait, qui sont les deux qualités qui sont reconnues par tout le monde, c'est-à-dire d'être un négociateur redoutable, mais en même temps sans faire perdre la face à la personne qui est en face de lui.
On sait quelques éléments, on sait qu'il va à l'école évidemment, qu'il reste en Alsace, et puis peu à peu il va rejoindre Paris.
Il y a environ 15 000 juifs d'Alsace-Lorraine qui ont émigré après 1870, donc qui ont choisi, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons patriotiques, de s'installer en France plutôt que de rester en Alsace ou en Lorraine allemande.
Gilles Beaupertier.
Donc il est dans le cadre de ces gens. Alors les solidarités communautaires font qu'effectivement il trouve un petit emploi chez un fourreur parisien. Il trouve également une chambre dans la pension Springer, qui aura beaucoup d'importance par la suite, puisque c'est là qu'il rencontrera Henri Bergson. Mais le point essentiel à ce niveau-là, c'est que grâce à un lointain cousinage, il parvient à rentrer dans la banque Gutscho. Et ça, c'est une chance, puisqu'au départ, il est simple coursier, mais il est tout jeune, il a 16 ans. Albert Kahn va bénéficier d'une formation de haut vol par des gens qui sont extrêmement compétents.
Mais en parallèle, ce que je trouve assez intéressant, c'est que il décide de reprendre des études. C'est-à-dire qu'il a ce travail qu'on peut dire alimentaire, mais aussi qui l'intéresse directement, que ce travail de banquier d'affaires. Et en même temps, il se rapproche par des effets, encore une fois, de connaissance et de camaraderie de Henri Bergson, qui devient en fait son précepteur, avec qui il va travailler donc pour travailler son baccalauréat littéraire. Et puis ensuite, il va commencer aussi à chercher à être licencié en droit, donc à avoir une licence de droit, qu'il obtiendra quelques années plus tard, au début des années 1880.
À l'époque, Bergson, il est étudiant aussi ou il est déjà...
Il est étudiant à l'école normale supérieure à ce moment-là, oui, oui. Mais ils sont quasiment de la même génération. Ils vont d'ailleurs se suivre un long moment tous les deux. Ils vont tenir une relative longue correspondance ensemble, qu'on a encore, heureusement. Et donc, on peut suivre ces premières années aussi d'études et de vie parisienne d'Albert Kahn grâce à ces échanges de lettres de cette époque-là.
Et comment il passe de coursier à... Tout d'un coup, il s'occupe de gérer des portefeuilles.
Comme souvent à cette époque, on observe le nouvel employé et petit à petit, on lui fait faire des choses de plus en plus compliquées pour voir un peu où sont ses limites.
On lui donne sa chance.
On lui donne sa chance. Et il se trouve que la banque confie à Albert Kahn une somme de 5000 francs à l'époque, ce qui est important, à charge pour lui de faire fructifier cette somme. Et à l'évidence, il y est parvenu, puisque progressivement, on va lui confier des sommes de plus en plus importantes.
Il va faire une carrière fulgurante. Enfin, il arrive à Paris à 16 ans, il rentre à la banque Gutscho à 18, il devient très rapidement associé. À 26 ans, il est quand même associé de la banque et à 38 ans, il fonde sa propre banque.
La légende dorée d'Albert Kahn veut qu'il ait fait une fortune d'un coup sur les diamants d'Afrique du Sud. Probablement, Albert Kahn, avec l'argent de la banque, et une commission qui lui est personnelle, va spéculer sur ses actions. Et c'est une très bonne opération. On a découvert que par la suite, il a recommencé à avoir comme ça un coup de chance prodigieux, enfin, appelons ça de la chance pour l'instant, grâce à l'or sud-africain. Et là, par contre, on sait qu'Albert Kahn a gagné énormément d'argent sur cette spéculation. Et à partir de là, le jeune financier peut devenir banquier, c'est-à-dire s'établir d'abord à travers la Gutscho, et puis plus tard en son nom propre, en tant que banquier.
Et on a quelques témoignages qui donnent la sensation d'un loup de la finance, quand même. Décidé à faire fortune. Et c'est ce qu'il fait. Et il l'est d'autant plus que c'est aussi un moment où le monde de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle est un monde qui s'ouvre à cet appétit capitaliste occidental. Ce sont des moments aussi des grandes colonies, des moments des... où l'on cherche et où l'on découvre des gisements financiers, disons. Donc ça passe par les mines d'or, les mines de diamants. On investit aussi sur les guerres. Bref, tout ça est tout de même, disons, vorace.
Et ça s'explique parce qu'à l'époque, Albert Kahn est un banquier encore jeune. Il n'est pas admis dans les grandes opérations internationales qui sont complètement trustées par les grandes banques françaises qui ont pignon sur rue et qui monopolisent les opérations rentables internationales. Donc une jeune banque comme la banque Albert Kahn est obligée, si elle veut arriver à s'établir, est obligée de prendre des risques, beaucoup plus de risques que les autres.
Donc le fait qu'il ne soit pas du sérail joue en sa faveur.
Le fait qu'il ne soit pas du sérail joue en sa faveur parce qu'il en a les dons. C'est un talent. C'est un don. Beaucoup d'autres ne sont pas du sérail, mais de toute façon n'arrivent pas à émerger ou font faillite.
Il deviendra quand même un des hommes les plus riches de ce début du XXe siècle. Et puis, vers 1908, d'après ce que l'on sait, il commence à décider de presque dilapider, on dit dilapider, c'est un terme qui revient dans la biographie souvent, sa fortune dans des actions purement philanthropiques, humanistes, qu'on pourrait dire vraiment non rentables.
Mon cher Bergson, voilà bien longtemps que je n'ai pas eu autant de travail que depuis 6 semaines. Cela va assez bien en général pour ce qui concerne les affaires, mais vous le savez, ce n'est pas mon idéal. Aussi ne serais-je heureux, je crois, que le jour où je pourrais alterner mes occupations.
Peu à peu, ça ne lui suffit pas. Peu à peu, ça le plonge dans des formes de recul, de distance, voire de dépression. Le mot, évidemment, n'est pas employé, mais...
Il a envie d'autre chose.
On peut imaginer ça. Moi, j'aime bien imaginer ça, mais c'est toujours ça le problème. Ça me plaît d'imaginer ça. Mais c'est ça qui fait que les surfaces archivistiques et biographiques sont très malléables, parce qu'on y projette aussi nos propres imaginaires.
Son idéal, c'est le pacifisme, c'est de vivre dans un monde pacifié. Et pour lui, le pacifisme passe par la reconnaissance mutuelle des peuples et l'entraide internationale. Donc il va mettre sa fortune au service de cet idéal.
Il commence très tôt à financer en fait des opérations philanthropiques pour soutenir la science, la connaissance, le savoir, l'ouverture d'esprit. Ça, c'est très tôt, hein. C'est dès les années 1890-95 où il a décidé d'agir.
La même année, le même mois, en mai 1898, il fonde sa banque et il donne de l'argent à l'Université de Paris pour créer une bourse autour du monde.
Delphine Alanik.
C'est quand même incroyable. Au moment où lui, il est peut-être à son apogée, et en tout cas financière, de reconnaissance, de statut, eh bien, il a ce geste de donner et d'offrir une possibilité à des jeunes agrégés de voyager autour du monde sans rien en retour.
Paris, le 10 juin 1898. Monsieur le recteur, il m'a paru que nos jeunes agrégés rentraient comme professeurs dans les lycées sans avoir pu dans l'intervalle prendre réellement contact avec la vie. Les jeunes maîtres vivifieraient leur pensée en la rapprochant de l'action. Plus il y aurait d'expériences intelligentes derrière la leçon qu'ils donnent, plus cette leçon aurait de prise sur ceux qui l'écoutent. C'est cette expérience que les voyages pourront donner sous une forme intensive.
Ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est à fond perdu. C'est-à-dire qu'il n'a aucun retour sur cet argent. Là, il investit sur des gens dont il n'attend absolument rien.
En retour,
si ce n'est de construire une France nouvelle et un monde nouveau.
Oh, surtout, ne vous noyez pas dans les livres. Oubliez ce que vous avez lu, prenez un paquet de cigarettes et partez. Je ne vous demande qu'une chose, c'est d'avoir les yeux grands ouverts.
Alain Petit, quelles conditions fallait-il remplir pour présenter sa candidature à cette bourse ?
Il fallait être au moins docteur ou agrégé de l'université, ou être ancien élève d'une des grandes écoles de l'État telles que Normale supérieure ou Polytechnique.
Ça s'appelle les bourses autour du monde.
Oui, ce sont des bourses autour du monde. Nous avons au total 147 hommes et femmes qui bénéficient en fait de ces bourses, donc sur 33 ans, entre 1898 et 1931, à peu près 150 personnes bénéficient des largesses d'Albert Kahn. C'est énorme. Et à ces bourses donc masculines et féminines dont nous avons parlé, il nous faut ajouter des bourses qui sont offertes à des étrangers.
Vous souvenez-vous encore des questions posées ?
Certes oui. Quel sera l'objet particulier de votre étude autour du monde ? M'a demandé le président Poincaré, toujours aussi sérieux. Pris de court, car je n'avais pas prévu cette question, j'ai eu l'audace de répondre « Je n'ai aucun programme à ce sujet, car je considère que si je savais d'avance ce qu'un tour du monde pourrait m'apprendre, il ne faudrait pas m'élire. C'est le voyage lui-même qui doit me former, mais je m'attacherai toutefois plus particulièrement aux questions politiques, économiques et sociales qui ont fait jusqu'ici l'objet de mes études. Et j'ai fait le tour du monde pendant près de 2 ans, en 1927 et 1928.
Avec une somme colossale, il dispose de 16 500 francs. Pour des jeunes agrégés en début de carrière, leur salaire annuel, c'est 4 000 francs. Donc c'est vraiment une somme colossale. Une somme colossale qui tient compte du fait que les déplacements autour du monde coûtent très cher.
États-Unis, Canada, Mexique, Honolulu, Japon, Corée, Mandchourie, Chine, Indochine, actuellement Vietnam, Laos, Siam, Malaisie britannique, Indonésie, Java, Sumatra, Bali, Inde, Pakistan, Ceylan, Éthiopie, Égypte, Palestine, Syrie, Turquie, Grèce, Italie.
Ils doivent partir voir le monde pour le ramener dans les salles de classe. Un monde qui leur est étranger, des langues qui leur sont étrangères, des coutumes qui leur sont étrangères, et qu'il y ait une transmission. Une transmission à la fois du monde qui disparaît et du monde à naître.
Il y a des arbres ici qui étaient là du temps d'Albert Kahn ?
Pour la plupart, oui. Mais tous les grands arbres, tous les arbres qui mesurent plus de 10 mètres, 20 mètres, sont des arbres qui ont été plantés par Albert Kahn. On a beaucoup travaillé sur des photos autochromes hein, du jardin, comme il était à son époque, entre 1900 et 1935.
Un petit porche.
L'entrée japonaise, oui, l'entrée du village japonais, qui a été restaurée aussi, bien sûr. Et là, ça nous montre vraiment la masse japonaise, un petit peu le style japonais dans sa splendeur, puisque là, on va travailler sur de la profondeur visuelle pour que le jardin paraisse grand. On va jouer sur les vides, surtout, et sur le graphisme des arbres, quoi. Tout ça en harmonie pour qu'il n'y ait pas de dominant en fait qui écraserait tout le tableau. Ce qu'a voulu démontrer Albert Kahn, ce qu'il a dû montrer dans son jardin, hein, sensibiliser les gens à la paix universelle en fait. C'est ça sa philosophie, hein, c'est créer un jardin sur 4 hectares qui vont évoquer les 5 continents. Donc on promène dans ce jardin, on fait le tour et on passe d'une scène paysagère à l'autre, d'un pays à l'autre en fait. Et c'est un jardin qui exprime la paix quoi. Et l'harmonie entre les peuples.
Il est beau sous la pluie, ce jardin ?
Le japonais, il faut le voir sous la pluie. La pluie fait briller les roches, en fait. Les rochers vivent. Même les troncs sont plus marqués. Il y a moins de lumière qui écrase tout ça. Donc, au Japon, lorsqu'on rentre dans les jardins traditionnels, ils arrosent avant. Ils mouillent les pierres, les roches, les pas japonais. Et puis ça le rend vivant en fait. On ne sait pas si la roche vit, mais pour nous elle est vivante. Est-ce qu'elle a une âme, on ne sait pas, mais elle est là.
Le 13 novembre 1908, Albert Kahn s'embarque.
Tout seul ?
Non, il est accompagné de son fondé de pouvoir, Maurice Lévy, et de son chauffeur mécanicien, Albert Dutertre.
Albert Dutertre, alors on s'est dit peut-être que parce qu'il était habitué à tourner la manivelle de la voiture, il pensait qu'il n'aurait pas de mal à passer à la manivelle de la caméra, pourquoi pas.
Petit, je vais vous emmener prochainement faire un très grand voyage. Allez dans les magasins et équipez-vous en vêtements. Chaussures pour les pays chauds et pour les pays froids. Prenez 2 jours de congé pour aller embrasser vos parents, car nous partons vendredi 13 novembre pour le Japon en effectuant un tour du monde.
Il lui fait suivre une formation très accélérée de preneur de vue cinématographique, mais aussi photographique.
Photographie stéréoscopique, ce sont ces photographies en relief. Les premières autochromes. Donc ces photographies couleurs, quelques films, et aussi une idée d'enregistrer à ce moment-là même la voix, la parole, vu que c'était à ce moment-là, les premiers dispositifs de captation de la parole.
Donc c'était des systèmes sur disques de cire.
Disques de cire, voilà, exactement.
Donc ils partent avec un Vérascope Richard et une caméra pâtée grand modèle, avec de je ne sais plus combien de milliers de mètres de pellicule. Au départ, je ne sais pas combien il y a de plaques, mais ils en ramènent à peu près 4000.
Donc ils embarquent à Cherbourg ?
Oui, ils embarquent à Cherbourg.
Serge Fouchard.
Jusqu'à New York. De New York, ils sont allés voir les chutes du Niagara, ils sont allés à Chicago, et après ils empruntent le train pour aller jusqu'à San Francisco. Alfred Duterte commence à photographier dès les premiers moments du voyage. C'est amusant parce qu'on voit changer le climat, puisqu'évidemment ils partent en hiver. Et quand ils arrivent à San Francisco, il fait très chaud. Ils s'embarquent à nouveau à San Francisco. Cette fois-ci, ils vont traverser le Pacifique avec un arrêt à Honolulu. Et donc là aussi, on a quelques photos d'Honolulu. Et puis, ils arrivent au Japon. Il va y avoir la traversée de la mer de Chine et l'arrivée à Shanghai. Ensuite, la remontée du fleuve Jaune et pour finir, arriver à Pékin. Et c'est là où justement Alfred Duterte va prendre énormément de photos de Pékin. Vraiment, la ville va être couverte.
Quadrillée,
on peut dire. Du coup, c'est un témoignage incroyable parce qu'on a maintenant une ville qui a complètement disparu pour vraiment très très grande partie. Et on a la ville de Pékin au quotidien.
On a la chance d'avoir encore le journal que ce jeune chauffeur, Albert Duterte, a tenu pendant ce voyage. Donc on a toutes les étapes. Et en même temps, Albert Duterte, de temps à autre, nous permet d'entendre Kahn à travers lui, c'est-à-dire les ordres, entre guillemets. Et donc Kahn lui demande clairement de photographier tout ce qu'il voit. Ce qu'il commence à appeler, ce qu'on appelle de plus en plus via Bergson ou d'autres, qui est la vie. Le mouvement de la vie, l'intensité de la vie. Et Kahn veut que l'on photographie cette quotidienneté de l'existant, de la vie elle-même, de prendre ce que l'on a sous les yeux. C'est à la fois un voyage d'affaires, c'est-à-dire que pour lui, pour Albert Kahn, c'est un moyen de continuer à installer, disons, son emprise financière, son empire financier, notamment au Japon, qui est une place très importante dans ces années-là, au début du XXe siècle. Et en même temps, d'avoir décidé de partir avec son chauffeur, qu'il décide de former à la prise de vue d'image, il y a déjà dans son idée d'expérimenter quelque chose. Alors, on n'a pas d'éléments archivistiques qui nous disent Albert Kahn, en 1908, sait déjà qu'il veut faire les archives de la planète. Mais en tout cas, il va expérimenter un dispositif qu'il va garder dès l'année suivante, quand ils vont commencer petit à petit à réfléchir, vraiment à mettre en place ces archives de la planète. Et en fait, ce geste-là que de photographier ce que l'existant, est déjà un geste révolutionnaire par rapport au travail visuel et au travail même archivistique. Donc, il photographie les marchés, il photographie les gens qui marchent dans les rues, il photographie les espaces, donc les maisons, les buildings à New York, les paysages, bien entendu. Et puis, à travers ça, bien sûr, c'est logique, apparaissent des témoignages insolites, comme par exemple les migrants qui sont sur les bateaux entre le Havre et New York. Et donc, en effet, Albert Duterte monte sur le pont, car c'est même pas la troisième classe, et photographie à la fois l'embrun, les vagues, l'orage, mais aussi les personnes qui sont par centaines tassées sur le pont et qui migrent à ce moment-là. Il y a un premier geste documentaire qui naît de toute façon avec tous ces nouveaux dispositifs de prise de vue. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont créer bien sûr de la fiction, etc. Et puis il y a ceux qui, tout d'un coup, cadrent le réel et le photographient, le saisissent.
La photographie stéréoscopique, les projections, le cinématographe surtout, voilà ce que je voudrais faire fonctionner en grand. afin de fixer une fois pour toutes des aspects, des pratiques et des modes de l'activité humaine dont la disparition fatale n'est plus qu'une question de temps.
C'est le paradoxe que j'aime chez lui, c'est que c'est un homme qui est capitaliste 1900, donc qui va sur les lieux où ce capitalisme s'ancre, où la société industrielle est en train de changer les paysages, changer les villes, changer les campagnes, changer le visage du monde, quelque part. Il sent que, à force d'exploiter la vie, les paysages et les hommes, il va y avoir un effet de changement radical qui peut passer soit par l'affrontement, et dans l'autre sens, je pense que presque, je dirais, esthétiquement, il y a quelque chose qui a commencé à le gêner. Une perte, je pense, oui. Ce sentiment de disparition, tel qu'il va utiliser ce mot-là, et qui, je crois, va être en effet un désir de saisir et capter le monde à un instant T, avant que ça change, pour de bon.
Alors que lui-même appartient à ce monde de prédation et d'accaparement des richesses.
Il y a évidemment quelque chose où Kahn est lui-même acteur directement de ces bouleversements, de ces changements, et qu'il en a conscience. On pourrait presque aller loin et dire que dans tout ce travail d'offre par la philanthropie et par ses images, il y a presque une manière presque de se racheter.
Le but des archives de la planète est d'établir comme un dossier de l'humanité prise en pleine vie au commencement du XXe siècle, à l'heure critique de l'une des muses économiques, géographiques et historiques les plus complètes qu'on ait jamais pu constater.
Il rentre en 1909 et il décide assez rapidement de monter un projet de captation d'images en couleur avec l'autochrome et en mouvement avec le film. Il lance le projet assez rapidement, dès le début des années 1910, donc c'est vraiment dans la foulée de ce tour du monde.
Donc les archives de la planète, ce sont donc des collections de plaques photographiques sur verre pour la plupart, et de films. On a environ 72 000 plaques autochromes. Il nous reste aujourd'hui 180 000 mètres de films, et on a plus de 6 000 plaques stéréoscopiques également. J'ai vérifié ce matin, avec les appellations actuelles de pays, on a 71 pays représentés dans les archives de la planète.
Et ce sont des boîtes de 4 autochromes, hein, les boîtes qui sont vendues par les frères Lumière, qui sortent des usines Lumière. Et au bout du compte, il y en aura 72 000. Et en plus, je vous dis 72 000, c'est 72 000 autochromes maintenant développés, connus. Donc on peut imaginer le projet colossal que ça représente, mais aussi, évidemment, économiquement, déjà, l'argent dépensé.
Ce qui l'anime et ce qui le passionne, c'est la vie. La petite phrase que Kahn était censé dire à la fois à ses opérateurs qu'il envoyait sur le terrain, mais également à ses boursiers, c'était « La vie, il faut aller saisir la vie là où elle est, partout, dans la rue ». Le projet des archives de la planète, c'est faire un inventaire par l'image de la surface du globe telle qu'elle a été aménagée par l'homme. C'est l'uniformisation des modes de vie et de garder des témoignages aussi.
Albert Kahn, pour les archives de la planète, veut à tout prix s'attacher, s'allier en fait à un scientifique, et donc il recrute un géographe assez déjà reconnu par le milieu universitaire qui s'appelle Jean Brune. Donc en fait, ils vont faire les archives de la planète un petit peu à deux. C'est-à-dire que lui va être le financeur, disons, et Jean Brune, le directeur scientifique, d'ailleurs, c'est son poste. Et donc, il va aussi lui-même encadrer souvent les formations des opérateurs pour les autochromes. Mais il y a une forme d'improvisation de toute façon dans tout ça, hein, comme tout grand projet de cet ordre. Il y a des lettres contradictoires, à la fois Jean Brune va demander des éléments plus scientifiques, là où Kahn va dire « mais vous auriez dû filmer beaucoup plus ceci, beaucoup plus cela, que ce soit plus fluide, qu'on voit simplement ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à regarder ». Il y a ensuite l'opérateur qui est tout seul au fin fond de la Mongolie et qui fait comme il peut et fait avec son matériel et aussi son propre désir d'opérateur. Parce que quand on veut aller prendre, par exemple, un coucher de soleil en Perse, il faut y aller la veille pour voir à quoi ressemble la lumière, il faut faire un test, il faut voir si ça fonctionne, si il y a la bonne qualité de lumière, puis il faut remonter le lendemain avec tout le matériel, avec il faut dormir sur place, etc. Bref, ça pour une image. Donc quand on en ramène 72 000, c'est-à-dire qu'après, ces images, elles doivent faire le chemin inverse, faut qu'elles reprennent les bateaux, faut qu'elles reprennent la voiture, faut qu'elles reviennent à Boulogne. Et on ajoute à ça qu'ensuite, ces petites plaques de verre, il faut qu'elles mettent 100 ans à nous parvenir. Moi, je suis très surpris par la mission de Stéphane Passé en Mongolie en 1913. Quand tout d'un coup, l'écran s'allume et qu'on voit Oulan-Bator en 1913, c'est un choc colossal de rencontre avec le temps. Et donc, il filme, par exemple, vraiment un pont à Oulan-Bator pendant 3 minutes, et il y a juste le passage des personnes sur ce pont.
Et vous faites ce geste de tourner la manivelle, puisqu'il faut tourner.
On sent de toute façon toujours presque le geste même de l'opérateur. Il filme cette ville qui semble tout d'un coup nous parvenir d'une époque médiévale. Ce pont de 1913, il est presque symbolique du pont dans le temps que font toujours les archives de la planète. C'est-à-dire que, oui, ces images, elles ont un tout petit siècle. Un tout petit siècle. Et en un petit siècle, Oulan-Bator, en effet, est devenu une des villes les plus polluées au monde aujourd'hui. Elle est devenue ce cœur surindustrialisé de l'Asie centrale. Et donc, en fait, c'est assez sidérant que de voir la totale efficacité du projet d'Albert Kahn. Il y a quelqu'un ici qui est quelqu'un de déterminé, mais aussi un très grand rêveur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est épris profondément, peut-être même avec un peu de naïveté, d'un idéal certain. Mais bon, c'est très propre aux mentalités qui peuvent traverser les milieux intellectuels et financiers, ou en tout cas riches et aristocratiques du début du XXe siècle. Cet idéal gonfle de toute façon les hommes et les femmes qui se sentent en capacité d'agir. Il y a comme ça l'impression qu'on peut faire quelque chose. L'idéal porte, on y croit, on y pense. Kahn fait partie de cela. Par contre, avec une forme de discrétion, ça c'est clair, et une forme de... c'est ça qui me touche le plus chez lui, je pense, une forme de, quand même, d'inquiétude, de tristesse larvée, quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui est quand même particulier chez lui, d'être dans la crainte d'une fin prochaine, d'être dans la crainte de la disparition, d'être dans la crainte de la catastrophe, d'être dans la crainte de la guerre, dans la crainte que les hommes s'étripent, etc. Il y a un idéal, mais il est traversé d'un regard noir.
Les générations futures se demanderont avec stupéfaction comment une catastrophe comme celle d'aujourd'hui a pu se produire, englobant toutes les grandes nations. Comment une grande portion de la richesse de la Terre a pu être anéantie et le monde entier enveloppé d'un vaste système de mensonges, de corruption et de trahison sans que personne l'ait prévu ni même vu, ni qu'aucun organe public s'en soit préoccupé. Mais ces générations ne pardonneraient pas que rien ne fût tenté pour éviter dans l'avenir un pareil désastre.
La guerre, la Première Guerre mondiale pour Albert Kahn, c'est un tournant dans ses projets.
Pour lui, c'est évidemment une remise en question de beaucoup de ses principes qui sont orientés autour de la question du pacifisme et de la prospérité. Et donc, c'est un énorme bouleversement, effectivement, qui va le pousser à agir à partir de 1914.
David Schön Thomas.
Notamment en instaurant un comité de secours national destiné à aider les populations les plus défavorisées pendant le conflit.
Donc financièrement.
Exactement. En fait, c'est un comité qui est destiné à récolter des fonds privés, dont les siens, pour apporter des repas aux plus pauvres, des vêtements également, mission qui aura réussi puisque plus de 80 millions de repas auront été servis à cette population donc entre 1914 et 1919. On le voit de toute façon dans ces archives de la planète, le sujet de la Première Guerre mondiale est primordial. On le voit donc dans les films qui montrent la vie sur le front, à l'arrière.
Pour les populations civiles.
Pour les populations civiles. Donc on a un regard quand même tourné sur l'effort de guerre, sur les désastres également de la guerre. Et ça, c'est un grand sujet pour lui, sur la nécessité aussi de reconstruire ces territoires qui ont été dévastés pendant la Première Guerre mondiale. Donc on a des films notamment pris en dirigeable qui sont remarquables et qui montrent toute l'étendue en fait des terres désastrées dans l'est de la France.
Le grand mot qu'utilise Albert Kahn, c'est la documentation. Donc son projet principalement est documentaire.
Anne Sigaud.
Ce qu'il entend par documentation, c'est indissociable de deux choses. Premièrement, d'une pensée philosophique. Une pensée philosophique qui pourrait se résumer de la façon suivante. Les mêmes lois générales régissent l'univers et la société humaine. Tout organisme biologique, les plantes par exemple, et la société. Tout est interdépendant, tout évolue sans cesse, et les mêmes lois générales régissent le microcosme et le macrocosme. Tout dans l'univers, que ce soit dans les systèmes planétaires, les systèmes cosmiques, à l'intérieur d'un organisme vivant ou que ce soit au sein d'une société humaine, tout procède par association et par évolution et transformation constante. Et si l'homme en société et au quotidien vit, dirige, gouverne, agit en harmonie avec les grandes lois de l'univers, l'homme peut réaliser son destin et l'homme peut être heureux, tout simplement. Donc de cette pensée philosophique naît un projet politique qui vise à réformer le régime, donc ça c'est écrit, il convient de réformer les régimes politiques. Il faut passer de régime individualiste à un régime mondial de gouvernance et qui soit fondé sur l'association sous toutes ses formes, que ce soit le syndicat, la fédération, la corporation, voilà. Toutes les formes d'association sont bénéfiques et tout ce qui est mondial, hein, et pas seulement international, mais tout ce qui est mondial, donc supranational, ce qui est assez avancé hein, comme type de pensée pour l'époque, correspond à l'étape à laquelle se trouve l'humanité au moment où éclate la guerre mondiale et ensuite. Donc c'est une pensée qui est déjà développée tôt hein, chez Kahn, qui est déjà en gestation quand il amorce ses premières fondations au tournant du siècle, mais qui va être théorisée pendant la guerre dans un document qui s'appelle « Des droits et devoirs des gouvernements » et qui va vraiment être mis en œuvre pendant toute l'entre-deux-guerres jusqu'à sa ruine.
« Des droits et des devoirs des gouvernements », contrairement à ce que son titre peut supposer, n'est pas un traité, il est à peine un manifeste, c'est un recueil de pensées, d'aphorismes, de réflexions autour de la question de la guerre, de la paix et de la nécessité d'organiser les sociétés autour du progrès et du pacifisme. Donc c'est une compilation en fait de phrases très courtes, parfois un peu mystiques, et on le sait, c'est un personnage qui est bouillonnant, qui a beaucoup d'idées, mais qui a des fois du mal à les exprimer. Et on retrouve dans ce style d'écriture assez ésotérique, on retrouve évidemment les grands principes d'un autre personnage fondamental pour Albert Kahn, qui est Henri Bergson, donc qui promeut également énormément la question de la paix et de la coopération internationale. Donc ça, c'est vraiment le leitmotiv de ce texte. Concevoir un organe mondial de réflexion, de prévoyance, parce que pour lui, savoir c'est prévoir, et prévoir en fait c'est essentiel pour aboutir à une société meilleure, et c'est son obsession, donc toutes ses fondations vont dans ce sens-là d'ailleurs.
Les élites doivent être douées de la faculté de voir ce qui n'est plus, ce qui n'est pas encore, ce qui a été, ce qui pourrait être, ce qui pourrait avoir été.
Et c'est vraiment destiné à ceux qui sont les élites du moment et qui seront les élites de demain. Quand on prend le pouvoir, on est en responsabilité et on doit assumer ses responsabilités et on doit prendre les bonnes décisions et ne pas hésiter à se remettre en cause.
Et donc cet organe serait un organe transnational qui rassemblerait tous les pays et qui est un peu l'idée de la Société des Nations et de l'ONU aujourd'hui.
Exactement, c'est... Et je pense qu'il a même comme ambition un super ONU et surtout un organe rationnel, et ça il le souligne très souvent. Albert Kahn a une grande admiration pour le corps universitaire, intellectuel, Et les décisions politiques, selon lui, doivent être prises par des personnes rationnelles, objectives, doit se détacher en fait des passions qui engendrent donc les conflits. Ces décisions rationnelles, pour lui, ne peuvent être prises qu'en connaissance de cause, donc en ayant à disposition des archives qui leur permettra de prendre les meilleures décisions possibles. Et d'où la nécessité donc de prévoir à travers des institutions, des organes de réflexion, comme notamment donc le Comité national d'études sociales et politiques qu'ils fondent en 1916.
Il s'agit de fabriquer des doctrines, des corpus d'idées sur les grands thèmes d'actualité du temps.
Donc pour influencer l'action publique?
Pour influencer à terme, en effet, les politiques publiques.
Et donc son idée, c'était quoi? De réformer? C'était des réformistes?
Kahn a une idée politique très précise qui consiste en effet à réformer les modes de gouvernance et il est entouré de personnalités qui font partie d'un milieu qui est en effet réformiste, c'est-à-dire ce qu'on appelle le réformisme en politique. C'est tout ce courant politique qui veut se situer entre le marxisme et le libéralisme, qui refuse très nettement, par exemple, la lutte des classes, qui est pour une réforme générale politique, mais qui soit progressive et qui mise sur la coopération et non pas la lutte des classes. Donc ça, en effet, c'est un des traits communs à l'ensemble du milieu d'Albert Kahn.
Quels sont les sujets qui sont importants pour eux?
Ça peut être l'économie, ça peut être les conflits sociaux, l'hygiénisme, la médecine préventive,
le logement,
la gestion des grèves, les rapports entre le capital et le travail, le logement ouvrier, les loisirs, la famille.
Donc dans l'idée quand même que les travailleurs et les citoyens vivent dans des meilleures conditions.
Oui, surtout afin de garantir la paix sociale et l'équilibre, l'harmonie, l'ordre.
Qu'il n'y ait pas de grève.
Qu'il n'y ait pas de grève, qu'il n'y ait pas de ralentissement de l'économie, qu'il n'y ait pas de violence sociale.
Il va pleuvoir toute la journée, là ?
Là, vous voyez, donc, on est dans un rond-point.
Oui,
oui, oui. Eh bien, là, on est au fond, on est très présente ici. Hein. Il y a des petits écureuils qui sont nés cette année. Ben, l'écureuil, là, il va chercher des noix chez le voisin. Il lui donne des noix, donc il repart avec ses noix. Ses noix. Et là-bas. Toc, 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 toc. C'est petit, lui, c'est un jeune, lui. C'est magnifique. Et donc là, on a un paysage du marais. Dans la forêt bleue, il y a ces deux petites flaques d'eau, là. Hop, hop, hop. Car ici, c'était une zone inondable à son époque. Donc il a créé, en fait, un petit marais, des petites mares en béton. Ah ouais, il est vif, hein. Magnifique. Il enterre ses noix et ensuite on va les noyer sortir. Hop, il gratte, hop, il met ses trucs, après il s'en souvient plus, mais donc il... On avait des noyers sortir, on avait des noisetiers, hop. Une vitesse, c'est magnifique. Sa maison est là, la grande maison, la grande bâtisse au fond. C'était ici.
En briques?
Oui.
C'est un petit hôtel particulier.
Exactement. Sa maison, elle est au fond du jardin. Ça, c'est intéressant aussi, puisqu'il s'est isolé un petit peu du jardin. Il ne s'est pas mis en valeur, hein, comme le font d'autres avec des châteaux.
Il n'est pas au milieu de son jardin.
Non. Ce qui est au milieu du jardin, c'est le palmarium, c'est la grande serre du train. Lui est un petit peu en retrait. Le personnage était un petit peu discret. C'était mécène, mais c'est l'intérêt du personnage. En fait. C'est ça qui est attirant chez lui aussi. Hein.
Moi, je crois qu'en fait, Boulogne, c'est l'univers d'Albert Kahn et c'est la planète d'Albert Kahn.
La forêt vosgienne.
Tout à fait.
Les jardins japonais.
Un pays qui est, pour lequel il avait vraiment une admiration, une appétence, oui, complètement. Et sa maison comme son intimité, puisque personne n'y allait à part son intendante, Madame Laurent, qui était une petite bonne femme assez énergique. Ensuite, il y a le cercle autour du monde, donc qui fait son apparition en 1906. Un chenil, un garage, des salles de projection. Ensuite, une imprimerie. Également, un atelier où on peut se faire photographier. Il avait, en fait, tous les bâtiments qui bordaient le jardin. Voilà. Il y avait quai du 4 septembre, rue du Port, rue des Abondances. Et ça s'est même étendu Jean-Baptiste Clément, rond-point Danube, etc.
Donc une grande propriété.
Il avait 7 hectares en tout.
Et il va mettre à disposition des boursiers un des pavillons de sa propriété, donc au 10 quai du 4 septembre.
Juste à côté de chez lui.
Juste à côté de chez lui. Et les boursiers vont pouvoir se réunir à la Société Autour du Monde, qui va être non seulement leur lieu de réunion, où sont organisés des repas, où sont organisés des débats, des conférences, où sont invitées des personnalités de l'époque, du monde politique, scientifique, religieux. Et c'est vraiment un bouillonnement culturel.
C'est quelqu'un qui s'informe beaucoup.
Énormément.
Qui rassemble de la documentation et qui permet à tout le monde d'y avoir accès.
Il fait des revues de presse, donc il compile tous les matins, il a une équipe pour ça.
Il découpe.
Compile et il découpe dans les journaux des articles qui sont collés. Et ça occupait une grande partie de son temps. C'était quelqu'un qui travaillait tout le temps.
Albert Kahn était un patron hors cadre. Je puis dire que c'était un véritable bourreau de travail qui nous insufflait son dynamisme. Depuis 5 heures du matin, il dépouillait tous les journaux français, cochait les articles, soulignait l'événement du jour que nous discutions ensemble dans la pièce contiguë à sa chambre où il nous réunissait à 7h moins un quart.
Une table ronde, monsieur Ducellier.
Une table ronde, oui, une table ronde quotidienne, sans protocole, ni poignée de main, ni bonjour, ni bonsoir.
Combien de journalistes travaillaient à plein temps pour Albert Kahn ?
Une quinzaine environ, professeurs agrégés pour la plupart, mais polyglottes obligatoirement.
Pourquoi obligatoirement ?
Pour la traduction de nos hebdomadaires, la vie politique, les possibilités, les faits sociaux, l'orientation nouvelle, et surtout pour notre vue mensuelle, la vie planétaire. Notre imprimerie située à Boulogne même tournait jour et nuit.
Vous soumettiez les épreuves à votre patron.
Certes, la vérité m'oblige à dire qu'il les remaniait souvent, qu'il les voulait parfaites, pour en faire le service à toutes les personnalités du monde politique, artistique, religieux.
Les bulletins imprimés d'Albert Kahn sont vraiment le condensé de sa pensée, ont pour vocation à influencer tout l'esprit public. Ça, c'est quelque chose qui a été écrit par lui, dans les objectifs qu'il se donnait avec ses bulletins. Mais de fait, les bulletins seront très peu diffusés, auront très peu d'audience et ne provoqueront pas d'influence réelle. La diffusion des bulletins est extrêmement restreinte à un cercle étroit et les collaborateurs des bulletins déplorent souvent que leur diffusion ne soit pas plus large.
Ils ont l'impression de travailler pour rien ?
Les collaborateurs d'Albert Kahn sont un petit peu déroutés. Ils apprécient l'esprit dans lequel Albert Kahn dirige les bulletins. Ils en comprennent l'utilité dans la manière dont on leur fait analyser la presse, les événements, l'actualité. Donc les collaborateurs tirent profit pour leurs propres réflexions, leurs propres travaux. En revanche, ils s'étonnent régulièrement du peu d'attention qu'Albert Kahn met à une diffusion à grande échelle des bulletins. En fait, un projet chasse l'autre à un rythme assez rapide. À peu près tous les 2 ans, il change plus ou moins de route. Ou alors il approfondit un projet, c'est-à-dire qu'un bulletin qui lui semble insuffisant ne va pas être remplacé par un autre nouveau bulletin, mais un nouveau bulletin va venir s'ajouter au bulletin précédent. Donc ça finit par faire une documentation qui finit par déborder Albert Kahn lui-même, à tel point qu'en 1929, il crée une centrale de recoordination pour tenter de redonner un petit peu d'unité à tout ça.
Mais tout ça, c'est stocké chez lui à Boulogne ? Tous ces bulletins, tous ces...
Les bulletins et toute la documentation préparatoire qui permet de les composer sont stockés chez Albert Kahn dans ses caves. C'est un illuminé, ça c'est sûr. Tout le monde s'accordait à dire qu'il partageait son emploi du temps de manière très séquencée et qu'il y avait un temps pour les visions dans la journée.
Les visions.
C'était, je crois, des fulgurances de type philosophique. Il se serait jeté aux pieds du poète indien Tagore, d'après son fils, pour lui dire qu'en se promenant de nuit dans les jardins de Cap Martin, il avait vu la vérité. Voilà, donc des visions, des fulgurances philosophiques, métaphysiques.
«
finalement, il a fait faillite, Albert Kahn. Il y a un moment où il n'a plus eu le nez creux autant qu'il l'avait eu. C'est à la suite de la crise de 29 et des années 30, la crise financière des années 30 en Europe. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour lui? Comment ça se fait qu'il n'a pas réagi comme d'habitude?
Albert Kahn, typiquement, est un homme du 19e siècle. Et il a interprété la crise de 1930 en France comme une crise du 19e siècle. Or, ce n'est pas le cas. C'est une crise du 20e siècle. Et cette erreur d'appréciation va lui être fatale.
C'est quoi la différence?
La différence, c'est que les crises du 19e siècle étaient des crises cycliques qui avaient une durée de temps limitée. Mais là, ce n'est pas le cas. Évidemment, la crise a été très longue. Dans un premier temps, il a injecté ses ressources propres. Puis, il a fait des emprunts. Et finalement, donc, il s'est épuisé à vouloir essayer de survivre à cette crise. Malheureusement, la Banque Kahn a fait faillite à cette occasion.
Au moment où il y a cette catastrophe, pour le coup financière, qui tombe après les États-Unis sur la France, en effet, il perd très rapidement, vraiment, quasiment la totalité de sa fortune. Donc les propriétés de Boulogne, là où il habite, sont mises en vente et sont rachetées donc par le département de la Seine, qui est devenu le département des Hauts-de-Seine en 1936. Et donc les propriétés vont elles aussi peu à peu être dépouillées pour que l'on vende les meubles, les tableaux, etc., les sculptures et autres. Et donc en effet, il va vivre en gros de 1936 à 1940 à Boulogne parce qu'on lui laisse quand même sa maison, mais sa maison qui donc d'après les témoignages est à ce point vide que il vit dans sa chambre sur un seul lit avec quelques meubles encore dans sa chambre. C'est un monde qui se termine, peu de visites, peu d'amis, peu de relations humaines, mais lui-même, à mon avis, n'en voulait plus tant que ça. Et donc oui, il y a cette fin de vie quand même assez sidérante par rapport à l'histoire de cet homme, et en même temps, c'est la fin de sa vie qui va catalyser beaucoup les légendes, les récits d'après-coup, cet homme saint presque dans le dépouillement le plus total alors qu'il était l'homme le plus riche du monde, etc. Bon, il y a toute une mythologie qui va se construire comme ça dans la chambre mortuaire.
Il meurt en...
Il meurt en 1940.
1940, la guerre vient d'éclater.
Voilà, tout juste. Il a même été jusqu'à devoir se faire recenser comme juif. Les 10 dernières années de sa vie, il les vit un petit peu comme un fantôme dans ses propres villas à Boulogne. Il meurt dans la nuit du 13 au 14 novembre 1940. On suppose qu'il est mort de vieillesse. Les témoignages peuvent faire penser, en tout cas, que c'est quelqu'un qui pouvait être atteint sans doute d'une forme d'Alzheimer ou quelque chose comme ça. Cette forme de dépouillement et de grande solitude dans laquelle il est plongé à la fin de sa vie peut donner la sensation que, comme on dit, il n'avait plus toute sa tête.
Dites que c'est un homme du 19e siècle, mais c'est vraiment un homme à cheval entre deux siècles. Il est aussi un homme du 20e.
Pour moi, qui suis formé en histoire 19e, 20e siècle, c'est d'abord un homme du 19e. C'est-à-dire qu'on est un peu trompé par le fait que l'activité la plus visible d'Albert Kahn, c'est Bourse autour du monde, les archives de la planète, etc. Tout ceci a été lancé au fond à la toute fin du 19e, au début 20e, et s'est déployé dans le premier 20e siècle. Mais Albert Kahn est né en 1860. L'arrivée dans le nouveau siècle, le 20e siècle, il a déjà, c'est un homme mûr. Il a 40 ans en 1900. Et sa formation intellectuelle, sa façon, ses réflexes, ses intérêts, la façon de monter ses œuvres désigne, à mes yeux, en tout cas de façon évidente, l'homme du 19e siècle. Et c'est important la différence, parce qu'un homme du 19e siècle est par essence optimiste. Il est un héritier des Lumières. Le monde s'ouvre à lui, et c'est le cas d'Albert Kahn. C'est un monde où toutes les opportunités peuvent être souriantes si on est doué, c'est le cas d'Albert Kahn. Alors que 20e siècle, non, il y a la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, c'est un changement de mentalité complet. Tout d'un coup, le progrès peut se révéler néfaste à l'homme. Vous voyez, donc on passe de l'optimisme, au fond, dans la foulée de la révolution, des sciences et des lumières, oui, du positivisme, à, au contraire, le choc absolument terrible dans les mentalités que va créer la Première Guerre mondiale, qui montre les aspects les plus mauvais de l'homme et qui, au fond, va introduire la notion de pessimisme dans la vision téléologique qu'on avait de la société à l'époque. Pour Albert Kahn, c'est un choc considérable. Imaginez un homme qui, justement, a déployé L'essentiel de sa fortune a essayé d'œuvrer pour la paix. Et cette première guerre, c'est la démonstration de l'échec. Pour un homme comme lui, c'est vraiment un drame.
Je trouve ça passionnant d'imaginer que Kahn avait raison. De se dire qu'on a tant dit de lui qu'il était fou, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on a décrit, il faut être dingue pour ne pas utiliser sa fortune à autre chose à cette époque-là, comme beaucoup de gens fortunés le faisaient, donc. Non, il décide d'investir dans un procédé qui est absolument pas connu, qui est même plus que expérimental, qui est l'autochrome, ou le cinématographe, qui est lui-même encore attaché à l'univers forain, etc. Enfin, c'est pas très sérieux, le cinéma. Voilà, c'est prendre des images animées du monde, et alors encore plus dire, on filme juste ce qui passe devant la caméra. Bon, on se dit que c'est quand même bizarre. Et tout ça, on le met dans des boîtes, et c'est tout. Bon, faut être un peu dingue. Et pourtant, moi, ce que je trouve fabuleux, c'est que de cette... Certes, sans doute, de ce pari ou de cette forme de folie ou de décalage, on a quand même aujourd'hui face à nous quelqu'un, face à nous à la fois les images de quelqu'un qui nous disent que, en effet, ce monde-là a disparu. Et que sans ces images-là, sans ce projet colossal, nous n'y aurions pas accès visuellement à ce point. Et après, les images, dès qu'on les a face à nous et que l'on comprend entre guillemets pourquoi elles ont été faites, on se sent visé, comme dit Walter Benjamin, on se sent visé par elles, on se sent touché directement par elles parce qu'elles nous interpellent, elles nous saisissent pour nous dire c'est une fenêtre qui s'ouvre véritablement sur le passé et en même temps qui est là déjà pour nous interpeller, nous rappeler l'inquiétude à la fois du temps qui passe ou en tout cas des choses irréversibles en fait. Voilà. Et elles ont été faites comme ça. Il y a quelque chose comme ça qui est beau de se dire qu'il a fait des images pour lui à l'instant de la catastrophe. Pour lui, c'est ça, il avait peur de ce moment de la disparition. Et il est temps de les revoir, ou en tout cas de les recevoir, ou de se sentir visé par elles au moment où nous-mêmes, on se pose la question à nouveau des catastrophes, des désastres ou de notre propre disparition.
C'était toute une vie d'Albert Kahn, rêver d'un monde nouveau.
Il y a un petit oiseau là. Lui là.
Avec Adrien Genoudet, Anne Sigaud.
C'est un troglodyte.
Delphine Alanic, Frédéric Lebris.
C'est un petit oiseau comme ça qui fait son nid, on dirait des croix de troglodytes.
Yaël Arasa, Gilles Beaubertier, Michel Faris, David Chen-Thomas et Serge Fouchard. Archivina Sabine Dahuron, attachée de production Sylvia Favre, coordination Christine Bernard. Merci au musée départemental Albert Kahn de Boulogne-Billancourt, ainsi qu'à Karine Dartigue-Pérou et Mathieu Larnaudy.
Non, la vie cherche à faire son nid, là. Il va passer l'hiver, faire de l'eau chaude.
Lecture, Francis Fréburger. Prise de son, Michel Gassic, Martin Troadec et Jean-Guilain Meige. Mixage, Valérie Lavalard. Un documentaire de Martine Abad réalisé par Diffie Mariani.